Après Desjardins, Capital One a annoncé qu'un pirate informatique a eu accès aux informations personnelles de plusieurs millions de clients, dont 6 millions de Canadiens. La banque a découvert une faille dans son système le 19 juillet et a alerté immédiatement les autorités pour retrouver le suspect. Et la police fédérale américaine a arrêté la personne en tant que telle qui serait de Seattle. Maintenant, Capital One croit qu'il est peu probable que les informations ont été utilisées à des fins frauduleuses, mais la banque poursuit quand même son enquête. On a l'impression de déjà vu. On en parle aujourd'hui avec Steve Waterhouse, expert en sécurité informatique. Monsieur Waterhouse, bonjour.
Bonjour, Caroline.
Là, la première question qu'on se pose, c'est à se demander qui seront les suivants. Est-ce qu'on a raison de s'inquiéter?
Bien, l'inquiétude, elle devrait être toujours présente parce que nos données, on ne sait jamais où ils vont, on ne sait jamais qui s'en sert et où ils atterrissent. Atterrir dans le sens d'être capté puis d'être entreposé. Dans le cas qui nous concerne, je veux dire, personne ne pouvait se douter un jour que un ex-employé de l'hébergement de Capital One, c'est-à-dire d'Amazon, pourrait servir de bord, sachant que ces informations techniques, les utiliser pour être capable donc de mettre la main sur l'information des clients de la banque Capital One. Fait que là-dessus, il nous reste juste à espérer que ça n'ira pas plus loin, mais les données ont déjà été dilapidées dans l'espace public.
Voilà.
Reste à espérer juste qu'il n'y a pas trop de monde qui a réussi à le voir avant que ça ait été retiré.
Mais en tant qu'expert, là, si on regarde ça, là, c'est quoi vraiment la différence dans les façons de faire entre la fraude qu'on a connue chez Desjardins et celle de Capital One, mettons?
Chez Desjardins, c'est un employé à l'interne, un employé en bonne et due forme de Desjardins, qui travaillait avec des données qu'il avait accès pour ses besoins de travail. Et donc, c'était une utilisation légitime.
Okay.
Dans le cas de Capital One, c'est un ancien employé d'Amazon, comme je disais,
okay,
qui, elle, cette personne-là, elle a des connaissances techniques, là, puis savait comment servir un ordinateur. Et elle a décidé donc de faire le tout pour le tout, c'est-à-dire de mettre la main sur l'information financière et d'être capable de la dilapider pour, un, démontrer ses connaissances techniques. Je crois qu'elle avait ça en tête parce que quand elle s'est compromise, plutôt elle s'est auto-divulguée publiquement, ben on voit que je pense pas que c'était tout à fait consciemment qu'elle l'a fait.
Okay.
Alors que généralement, un faussaire sérieux, lui, va se cacher, va masquer ses traces. Alors qu'ici, ça a été facile pour les policiers de la suivre sur l'espace public. Ça, c'est l'autre aspect. Alors que chez Desjardins, ben, la fraude a été voulue, elle a été mise vraiment là, en arrière-plan pour que ça soit le plus difficile à savoir d'où se provient la source.
Pour ce qui est de Capital One, là, on sait que le pirate informatique a réussi à obtenir certaines informations, dont la cote de crédit, les soldes. On a les numéros de sécurité sociale également. Et la banque va offrir des services gratuits de surveillance du crédit aux personnes qui sont concernées. Mais là, est-ce que les organisations financières ont juste trop de données, trop d'employés, que ça devient pratiquement impossible d'être vraiment 100% hermétique dans ce cas-là?
Au contraire, Caroline, ils peuvent en avoir même le double d'informations
ou
d'employés sous la main.
Okay.
Ce qui est important là-dedans, c'est qu'ils appliquent les bonnes pratiques et qu'ils revoient ces pratiques-là au fur et à mesure que le temps avance. Donc, si un système informatique a été mis en place il y a 3 ans, avec un contexte particulier du moment, ben 3 ans plus tard, là, la dynamique a complètement changé, la quantité de données a changé, la sensibilité de données a changé aussi. Donc, c'est à revoir pour appliquer les correctifs nécessaires pour améliorer justement cette sécurité-là et s'assurer qu'on n'a rien oublié. Parce qu'il y a tellement de gens qui roulent souvent dans l'entretien d'un système informatique, c'est jamais la même personne parce qu'il y a des contractuels, donc tout le monde roule. Ça fait en sorte que l'erreur devient de plus en plus probable.
Okay.
Et ceci dit, que ça soit 500 utilisateurs ou que ça en soit 5 millions, ben, il s'agit d'une faille, c'est-à-dire d'un maillon faible dans toute cette chaîne de sécurité qui devient facile à exploiter pour que ça invite justement les gens à tenter leur chance puis d'aller mettre la main sur le gros magot, c'est-à-dire la quantité d'informations qui est intéressante à revendre après ça.
Ben, c'est ça, on a l'impression que quand c'est une grosse machine comme ça, comme Desjardins Capital One, on sent que la sécurité est déficiente puis c'est pratiquement incontournable qu'à un moment donné, ça va arriver. Là. Ça donne cette impression-là.
Ben, dans toutes les organisations, je te dirais, c'est la même préoccupation que tout le monde a.
Mm.
Parce que souvent, oui, tellement que c'est gros, on en perd notre latin, comme on dit, mais en même temps, si ça serait plus petit, ben ça serait aussi plus difficile des fois peut-être à repérer. Donc la centralisation a fait en sorte que ça devient une plus grosse cible dans un endroit, mais c'est toujours plus facile de protéger un endroit que d'en protéger 15. Fait que de cette façon-là, c'est là que je dis qu'il y a moyen de juste raffermir qu'est-ce qui est en place pour s'assurer que les données qui restent en un endroit demeurent à cet endroit-là, mais il y a un travail à faire. Puis le travail implique un investissement de temps et argent pour être capable de faire ce travail-là, ce qui est absent souvent, surtout des institutions financières, alors que la majorité du temps, les institutions financières vont y aller par obligation de loi. Donc, les obligations légales leur dictent de faire X, Y, Z, bien, pour être conforme, pour ne pas avoir de pénalité, ils vont se conformer à X, Y, Z. Mais ils n'iront pas se conformer à G, F et D parce que c'est juste optionnel. Donc, c'est là qui est un peu la bête jusqu'à réside, c'est que s'il y a des lois et des règlements sévères pour dire qu'il faut avoir des G et F en place comme sécurité, c'est le gouvernement qui va les dicter et pour être conforme, et là, à ce moment-là, les institutions vont s'y conformer. Rare, on voit les institutions, des fois, qui prennent des initiatives qui vont aller au-delà de toute attente pour être en mesure de protéger. Fait que oui, Desjardins, en commission la Chambre des communes, il y a quelques semaines, M. Cormier l'a cité que Desjardins est très bien coté en Amérique du Nord côté sécurité. C'est vrai, mais en même temps, il y a moyen de faire mieux. Puis ça, je le dis souvent, c'est revoir l'évaluation de menaces et de risques, parce que si la menace du travailleur isolé, de la menace interne qu'on appelle, ben qu'elle est un peu qu'elle est prévalente, c'est-à-dire puis qu'elle est beaucoup plus présente dans l'environnement, ben faut revoir la façon dont on contrôle l'information auquel l'utilisateur a accès, puis comment est-ce qu'il y est accédé. Puis encore une fois, c'est des doctrines qui ont été écrites il y a 40 ans, qui sont encore très, très, très d'actualité, sont juste pas implantées correctement.
Il y a toujours place à amélioration, mais on s'entend qu'avec Equifax, là, si on prend l'exemple de Desjardins, là, même Equifax a été victime de fraude. Là, fait que rendu là, on s'entend, c'est pas du tout la même chose, mais en même temps, est-ce que les mesures de sécurité instaurées après des fraudes comme ça, c'est assez sécuritaire, justement? Là, la Banque nationale a demandé à ses clients qu'elle suspecte de fraude là, de se présenter en personne, et c'est, selon la banque, la seule mesure sécuritaire fiable. Rendu là, est-ce que c'est rassurant? Est-ce qu'on peut faire confiance aux banques?
Ben, là-dessus, je trouve que c'est une méthode là, qui a pas de sens, là, parce que ça veut-tu dire que tous les gens qui ont des cartes Capital One vont être profilés de la même façon? Ou bien quelqu'un qui va avoir une fuite d'informations d'un autre institution financière, eux aussi, ça va rentrer dans cette politique pour devoir aller se présenter. C'est là que je trouve que c'est une demi-mesure pour rien. Ça énerve le monde pour rien. Et après coup, là, ça, on met pas la sécurité à bonne place. Au contraire, faut qu'il y ait un rehaussement de l'authentification d'une façon systématique. Et c'est de procéder avec une méthode qui va être endossée par tout le monde de l'industrie, y compris le gouvernement. Et là, ça va être uniforme, ça va être plus facile. Mais là, présentement, demande l'identité de quelqu'un, Carole. C'est quoi? Ben, tout le monde dit, ben, c'est mon permis de conduire, c'est ma carte d'assurance maladie, alors que c'est faux, ce ne sont pas des pièces d'identité, ce sont des pièces d'information qui sont pour ces ministères-là qui doivent être utilisées jusque par ces ministères. La loi est écrite de même. Fait que donc, tout le monde s'adonne de prendre ces pièces-là, alors qu'ici au pays, ben, il nous reste juste le passeport qui est officiellement la pièce d'identité officielle. Ben, c'est là qu'on est en retard parce qu'on devrait avoir une carte d'identité numérique. Même si elle n'est pas numérique, une carte d'identité nationale qui identifie tout le monde, qu'un bureau du registraire national serait la seule entité qui pourrait corroborer cette pièce d'identité-là, et ça serait réglé. Mais faut arrêter de dire, bon, on s'accommode de tout ce qui est alentour de nous autres, puis ça fait notre affaire, puis c'est là qu'on perd vraiment toute crédibilité, puis quand il y avait un incident encore comme aujourd'hui, puis comme qu'il y a eu avant ça, ben c'est là que, oups, il nous manque des repères.
Mais là, M. Waterhouse, on parle de sécurité, est-ce qu'on sera forcé éventuellement de revenir avec les fameux livrets là, pour faire nos dépôts, ou on va être quand même en mesure de continuer avec l'informatique sans risque?
Ben on en est là, parce que, Caroline, justement, pas là, ça fait longtemps que... des gens comme moi dans l'industrie de la sécurité informatique, on dénonce ce manque de transparence, ce manque de profondeur pour être capable de s'authentifier correctement. Et ça, je fais référence de premier ordre. Lorsque j'étais à la Défense en 1999, la Défense a instauré un système qui est une infrastructure avec les publics, qui se veut d'être une carte d'identité numérique et avec laquelle même la signature qui est légalement reconnue, tout comme on peut chiffrer des courriers électroniques puis envoyer ça partout. Et ce genre de système-là, même le DHS aux États-Unis s'en sert, et c'est ce même genre de type de carte que se sert l'Estonie, l'Inde et bientôt même le Brésil qui va mettre ça en fonction. Et donc, ça devient des systèmes qui ont été éprouvés à travers le temps et que le Canada avait anticipé de le faire dès 2000-2001. Mais pour une raison assez obscure, ben on me dit encore une fois que c'était pour des raisons économiques, d'intégration sociale, ça s'est pas fait, ça a été tabletté. Fait que là, c'est pour ça que je dis toujours, on est 20 ans en retard, parce qu'il y a des problèmes, même que dans le temps, ça a été travaillé, mais qu'il y a quelqu'un quelque part qui a décidé que, ah ben non, finalement, on n'a pas de l'avant, ça vaut pas la peine. Mais là vaut pas la peine, on est là plus tard, qu'on aurait dû, on peut juste regarder en arrière et dire, on aurait dû, et on est à recommencer.
Chose certaine, on espère qu'on va en tirer des leçons, qu'on va pouvoir améliorer la sécurité, donc l'enquête se poursuit, mais c'est quand même à se demander c'est qui le prochain? On espère qu'il n'y en aura pas d'autres rendus là.
C'est certain, c'est une question de temps, puis il faut juste être un petit peu plus méfiant puis faire attention à comment on travaille notre information. On a tous à travailler pour la sécuriser davantage.
Toujours très intéressant. Merci beaucoup pour l'entrevue.
Ça fait plaisir. Bonne fin de journée.
Steve Waterhouse, expert en sécurité informatique.